Vous êtes bien, c'est normal, vous êtes sur Radio Bulle 93.6. On débute la journée tous ensemble, les amis. C'est vendredi, on est aux portes du week-end et avec Jean-Paul Delvaure, on vous propose depuis le début de la saison cette nouvelle chronique. Enfin, cette nouvelle chronique, maintenant, on est quand même moitié fin de la saison, qui s'appelle « Faites entrer l'artiste ». Alors, habituellement, cette chronique, je l'amène de concert avec Jean-Paul, mais Jean-Paul est un artiste, lui aussi, et d'abord un artiste. Il est pas mal sollicité en ce moment, c'est une super bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il a un talent incroyable. Il brûle les planches, il est en tournée, donc eh bien, j'ai pris à bras le corps le fait entrer l'artiste et j'ai quand même un peu de chance cette fois-ci, même si on a toujours beaucoup de chance. C'est qu'on accueille depuis le début du mois Fanny Paloma Escobar. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Merci de nous accorder de ton temps.
Merci.
On a fait ta connaissance en fait tout au long de ces épisodes que vous pouvez retrouver hein, sur bullefm.net, le site internet de Radio Bulle en podcast. Donc toi, début, t'es comédienne, ensuite, à un moment donné, tu t'es dit « j'en ai marre d'attendre un prêt à un rôle », t'es partie faire ta carrière en Angleterre, en Espagne, et puis t'as ce souci qui est vraiment venu très rapidement de faire parler les autres, de te projeter aussi sur les autres. Et il y a ce thème en fait qui revient en récurrence chez toi quand on t'écoute parler. C'est bon, déjà le thème de l'héritage familial parce que tu as un papa qui est un immigré chilien qui t'a laissé un héritage, j'imagine, si j'ai bien tout compris, qui t'a marqué.
Mmh.
Et puis la question aussi des racines.
Oui.
Mais dans le sens le plus large du thème. Et là, on va sur le côté environnement, on va sur le côté... les racines qu'on a de par le lieu d'où on vient, de par les personnes aussi qu'on a côtoyées. Et tu nous proposes donc le long métrage « Pilleur de terre » qui sera donc visible dans une semaine tout juste, vendredi 27 mars, pour le Festival des droits humains au Montreur d'images. Oui. On va vraiment parler aujourd'hui de ce travail de créativité aussi, de création, parce que tu as eu un sujet qui t'est venu comme ça, parce que la vie, c'est aussi des échanges.
Mmh.
Et puis, tu as mis ta patte et tu as mis aussi toute ta sensibilité.
Oui. Alors, en fait, effectivement, c'est né d'une rencontre, Pilleur de terre. C'est né d'une rencontre avec ces personnes qui m'ont bouleversée parce que, en fait, leur lutte, c'est pas une lutte pour le sol, finalement, tel quel. Quand on dit pilleurs de terre, on leur a pas arraché ce sol, mais on leur a arraché un lien avec leurs ancêtres, mais aussi avec leurs enfants, avec une manière d'habiter le monde.
Processus de l'industrialisation,
oui.
On le pose pour nos amis éditeurs qui n'étaient pas là avant.
Oui, c'est ça. Donc, ça traite de néocolonialisme. C'est des sociétés agro-industrielles qui ont une maison mère en France, qui est le groupe Bolloré, mais qui, elles, font de l'huile de palme, qui font de l'EVA, l'arbre à caoutchouc, et qui s'accaparent de terres de populations autochtones, qui les rasent, qui rasent des forêts sacrées, qui polluent des rivières, pour faire ces plantations monocultures à l'infini. Et donc, ces populations qui sont en péril, en danger de mort, très honnêtement, tentent de résister. Et ne trouvant pas beaucoup de moyens sur place, elles ont trouvé un recours dans une loi française qui est la loi sur le devoir de vigilance qui a été votée en 2017 en France.
Mmh.
J'ai rencontré donc le député qui a fait voter la loi et les personnes sur place et beaucoup d'activistes parce qu'il y a beaucoup d'ONG en fait qui s'appliquent. Et j'ai voulu mettre en avant le fait que il y a une certaine convergence des luttes qui se produit, donc non seulement entre des populations très isolées au Cambodge et très isolées au Cameroun, qui trouvent le moyen de lutter ensemble, mais le travail des ONG sur place, qui est un petit travail de fourmi, de résister chaque jour aux multinationales, ça permet de garder le moral des troupes, on va dire. Et à côté de ça, des actions en justice, comme celle que j'ai suivie pendant 5 ans, mais qui se déroulent depuis plus de 10 ans, et ben ça permet parfois de créer de gros changements, de faire des actes de jurisprudence et de faire avancer la société. Donc les deux sont utiles.
Et là, tu mets en lumière en fait cette opération entre guillemets de résistance, de force collective qui va s'articuler face à des géants économiques. Hein, et donc, c'est aussi donner la voix et montrer ce qu'on ne voit pas d'habitude. En fin de compte, parce que c'est des peuples autochtones dont on n'aurait jamais eu connaissance, en fin de compte.
Oui.
On va chercher loin quand même. C'est-à-dire qu'on va faire ces plantations très loin, dans des endroits hyper reculés dont on n'a même pas idée, en fin
Exactement.
De compte.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est tout à leur intérêt, à ces multinationales, que ces peuples soient très isolés et qu'ils soient d'ailleurs en conflit entre eux.
Ouais.
Plus il y a de division, moins les récits circulent et plus on peut vendre une vision des choses et qui justifie la façon dont on fait commerce aujourd'hui. Mais en réalité, de pouvoir se réancrer dans leur vision, dans leur manière d'habiter leur terre, dans leurs échanges sociaux et culturels, ça nous permet quand même de nous reposer la question, est-ce que vraiment c'est la seule manière de faire et est-ce que c'est la manière qu'on veut, puisque on a tous, je pense, une petite part à jouer dedans.
Il y a la question de l'écosystème qui est bouleversée. Oui. On déséquilibre en fait un équilibre ancestral.
Oui, ouais. On fait disparaître des plantes et des savoirs qui sont liés à ces plantes, qui nous seraient probablement très utiles aujourd'hui. Je disais dans un épisode précédent que certaines pharmacopées disparaissent et la façon de les utiliser, mais ça disparaît vraiment parce qu'on a des plantes qui n'existent que dans ces régions et qui, une fois qu'elles sont rasées, d'ailleurs, j'ai des plaignants qui me le disent, s'ils voulaient nous rendre, qu'est-ce qu'ils nous rendraient en fait ? Parce qu'on ne peut pas refaire la forêt du jour au lendemain. Rendre un terrain vide, ça, si l'écosystème est mort, il est mort. Combien de temps avant qu'une forêt telle qu'on doit nommer une forêt repousse avec tout ce qu'elle contient ? Donc voilà, on met en danger ces personnes, mais on n'est pas isolés les uns des autres. Donc la disparition de leur savoir, c'est une perte pour toute l'humanité. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est un peu le message que j'ai voulu transmettre.
C'est une violence donc, qui leur a été imposée comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, en fin de compte, c'est la paix qui s'éloigne parce qu'effectivement, il va falloir aller trouver des modes de résistance pour survivre. Toi, tu as rencontré ces personnes qui ne te connaissaient pas. Tu viens d'un ailleurs pour pouvoir trouver justement le fil de la confiance. Ça a été long. Est-ce que tu as encore, en plus, des liens avec ces gens ? Est-ce que tu leur parles encore ?
Oui, je leur parle encore. Et pour créer la confiance, oui, ça a été long. Il a fallu que je rencontre parfois les bonnes personnes avec qui j'avais peut-être plus de facilité à communiquer pour pouvoir retrouver des personnes que j'avais déjà vues. Il y a des personnes que j'ai interviewées plusieurs fois sur les 5 années et entre les premières interviews que j'ai et les dernières qu'on a faites, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé les premières puisqu'on n'avait pas de lien, donc on me disait quelque chose d'assez générique.
Ouais.
Et en même temps, qui ne mouillait pas trop les gens. On ne voulait pas que j'utilise que j'utilise mal les propos. Donc oui, ça a été un chemin long, mais intéressant. Et puis, je pense qu'il a fallu que moi, j'arrive à un certain point de ma compréhension pour que les gens aussi me fassent confiance. Et je parle des personnes dans les communautés autochtones sur place, mais aussi des différents experts qui m'ont aidée dans ce travail, qui ont vérifié mes informations, qui m'ont donné plus d'informations et qui peut-être n'avaient pas envie de perdre leur temps au début avec quelqu'un qui se mettrait un peu comme sur le
expérimentation,
dessus de l'affaire, en expérimentation. Ouais. Donc d'une certaine manière, il fallait aussi que je fasse mes preuves et que je montre ma motivation.
Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es clairement découragée en disant déjà c'est loin, il faut pouvoir y aller, je vais aller parler peut-être à des gens qui n'ont pas envie de me répondre pour des raisons qui leur appartiennent, c'est aussi faut s'adapter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la peur, tu vois, parce que tu t'attaques quand même, entre guillemets, si c'est pas la volonté, c'est pas de s'attaquer, c'est de d'aider. Mais quand même, en face, il y a des géants.
Oui. J'ai eu plein de fois envie de renoncer. C'était pas... La peur principale que j'avais, c'était de mal faire, de mal transcrire leurs histoires.
Ah ouais.
D'être à côté. Et alors là, c'est le pire échec. C'est ça qui me faisait le plus peur. Et en même temps, c'est ça aussi qui me donnait envie de continuer à apprendre. Et plus j'en apprenais, plus finalement je me remotivais. Et puis, il y a aussi le fait que j'étais en autoproduction.
Ouais.
Donc, je n'avais pas de financement pour mes tournages et je n'avais pas non plus de promesse que mon film serait diffusé ou que ce soit.
Ouais.
Donc,
c'est une fuite en avant, c'est un peu dans le vide, quoi.
Oui. Mais en fait... plusieurs fois, j'ai renoncé, puis finalement, je me suis dit, je tente une dernière fois. Je retournais sur place, et en fait, sur place, je retrouvais ces personnes qui, finalement, plus le temps passant, à force qu'on se revoit, me disaient qu'ils étaient contents que je sois dans cette démarche. Et ça redonnait du sens. Et du coup, je continuais. Et voilà. Et puis, jusqu'à ce que je décide d'y aller à 100% jusqu'à ce que je termine le film.
Et tu as autoproduit le film avec tes propres moyens. Donc, c'est d'autant plus louable. Effectivement, tu as raison. C'est une difficulté supplémentaire. Forcément, quand on ne peut pas financer le voyage, parce que tu es partie au Cameroun combien de fois ?
Je suis partie au Cameroun 3 fois.
Voilà, et au Cambodge, t'es
5.
Voilà, c'est... Pourquoi plus... c'était plus compliqué au Cambodge ?
Non, parce que en fait, j'ai rencontré les Cambodgiens avant et les Camerounais n'étaient pas encore entrés dans le processus.
D'accord, ok. C'est la raison pour laquelle... Oui. Et à quel moment tu t'es dit, bon, bah là, ça y est, j'ai ce qu'il faut ? J'imagine que c'est pas réglé encore, bien entendu, c'est un dossier énorme. Mais à quel moment tu t'es dit, là, j'ai ce qu'il faut, là, j'ai matière à faire en sorte qu'il y ait une résonance à mon travail et à ce qu'ils disent.
En fait, est arrivé un moment où ça faisait donc déjà presque 5 ans que j'étais dessus. Je me suis lancée sur une nouvelle année de tournage sur laquelle j'ai défini certains objectifs. Je savais qu'avec ça, je pouvais avoir un film et j'ai parlé avec certains des acteurs du procès. Et l'idée que ça puisse servir le procès a été un moteur à finir le film à ce moment-là. C'est-à-dire que sinon, on pouvait continuer pendant 10 ans. Ouais. Mais on s'est dit peut-être qu'en fait, c'est le moment de faire quelque chose que ces images puissent servir et peut-être qu'un jour, un juge ou quelqu'un qui va prendre des décisions importantes le voit et revoit son jugement puisqu'ils n'ont pas toujours été pris au sérieux. Donc voilà, cet espoir m'a décidé à arrêter là. Et en fait, il s'avère que quand je suis rentrée dans ce processus, les Camerounais ont gagné leur procès.
Ouais.
Et donc voilà, le film termine sur ça, sur une victoire qui est infime, mais énorme pour eux, et qui pourrait donner lieu à un procès sur le fond. C'est pas la grande victoire qu'on aimerait voir à la fin de ce film, pas du tout. C'est pas les grands gagnants de cette affaire encore, mais voilà, il s'avère qu'il y a quand même une première étape qui se clôt et qui a pris des années et des années pour eux.
Et est-ce que tu aurais envie plus tard de retourner les voir, en fait ?
Oui, j'aimerais retourner les voir avec le film. C'était l'objectif. C'est vrai que l'autoproduction, je suis passée en coproduction au moment de la post-production.
Ouais.
Mais voilà, cette aide qui a été immense pour moi parce que ça m'a permis de pouvoir finir le film. Elle a duré cette période-là, mais on est loin d'être une grosse production pour pouvoir de nouveau encore financer tous ces voyages. Ça a été tout un tas de coûts, donc pour l'instant je ne peux pas partir, mais par contre je leur envoie le film, je communique et surtout j'essaye de le faire tourner. On va voir ce que ça donne après. Retourner là-bas tel quel moi, oui, j'adorerais pouvoir conserver ces liens et voilà. Après c'est pour eux, rien n'a changé aujourd'hui.
Ouais. Dans leur vie de tous les jours.
Au contraire, et c'est pour ça que j'ai envie que le film tourne, parce que c'est toujours une actualité brûlante. Ouais. Alors moi, j'arrive au bout d'un processus, mais ils sont vraiment en plein dedans.
Ouais. La diffusion au montreur d'images, c'est le vendredi 27 mars pour le Festival des droits humains. Si tu avais une clé de lecture, peut-être, à suggérer à nos auditeurs, qui t'entendent ce matin, qui peuvent aller aussi retrouver les podcasts de tes passages les semaines précédentes où on a évoqué un peu moins en profondeur, mais bien entendu le long métrage Pilleur de terre. C'est, d'ailleurs, le titre a été soufflé par quelqu'un d'assez connu.
Oui, par Edoui Plenel, que j'ai rencontré au Montreur d'images, justement, l'année dernière, qui était venu présenter un film de Mediapart et que je voulais absolument rencontrer. Et mon film, j'avais pas encore fait cette dernière année de tournage intense. Et il s'appelait Le temps de la justice à cette époque, mon film.
D'accord.
Et voilà, Edoui Plenel m'avait promis qu'il me réécrirait, ce qu'il n'a pas fait. Mais par contre, au cours de cet échange, il m'a dit, mais Le temps de la justice, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être le Chili aussi, Le temps de la justice. Ouais, ça pourrait être tous les pays du monde.
Ouais.
Il m'a dit, mais tu devrais l'appeler Pilleur de terre. Et comme je n'ai pas eu de nouvelles de lui après, je me suis dit, je vais faire quelque chose de cette
faut le dire dans la
courte
presse,
collaboration.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et j'ai gardé ce titre. Ouais.
Que son nom et son prénom ressortent et qu'ils disent, mais qui parle de moi ? C'est Fanny Paloma Escobar, les amis, qui donc propose Pilleur de terre, un long métrage à l'occasion du Festival des droits humains qui sera projeté donc le vendredi 27 mars à Agen, au Montreur d'Images. Merci beaucoup, Paloma.
Merci beaucoup.
On sera présents, nous aussi, au Montreur d'Images, toute l'équipe de Radio Bulle, avec beaucoup de plaisir. Et on pourra échanger, parce qu'il y aura un temps de débat.
Oui, ce sera suivi d'un débat. C'est organisé aussi avec Amnesty International, l'antenne d'Agen. Donc, on va débattre avec certains de leurs membres, moi et le public.
Super, merci Paloma.
Merci beaucoup.
À très vite les amis, nous on se retrouve juste après le top de la musique sur Radio Bulle. On continue la matinale tous ensemble jusqu'à 10h ce matin.